avec des visites demain de bibliothèques. Donc on a aussi un réseau extrêmement bien constitué. On en est, nous, très très loin. Je pense qu'il sera très intéressant qu'on puisse, sur ces modalités-là, prendre exemple sur ce que vous avez mis en place. La grande diversité des organisations, des organigrammes et des missions dans les collectivités territoriales est à l'origine de situations extrêmement variées et crée des situations différentes dans les relations des uns envers les autres. Je veux dire par là qu'elles peuvent être inexistantes, hiérarchiques ou fonctionnelles. Il existe des cas de figure peu clairs où l'organigramme définit une ligne hiérarchique, mais où, dans les faits, les relations reposent sur des liens fonctionnels. Est-on en présence d'un côté d'un généraliste de la culture et de l'autre d'un spécialiste des bibes ? L'évolution du paysage culturel brouille un peu les cartes. Il peut arriver en effet que le généraliste, frustré de toucher à de nombreux domaines sans pouvoir approfondir, soit tenté de se spécialiser sur un axe prioritaire de la politique culturelle ou sur un domaine culturel de prédilection. Je réfléchissais en arrivant tout à l'heure à cette phrase-là parce que lorsque je suis arrivé à Pantin, j'ai commencé à m'intéresser très vite à la structuration administrative du cinéma. Dans un passé professionnel, j'ai travaillé énormément dans le domaine du cinéma à la création notamment d'un festival de cinéma dans la région rouennaise. Et je me suis demandé si en fait il n'y avait pas de relation de cause à effet. Quant aux spécialistes de la bibliothèque, mais il en est de même pour d'autres professionnels, tels que le directeur de l'école de musique ou du musée, il ne cesse d'élargir son champ d'action, tant techniquement que thématiquement, que territorialement. Une certaine tradition professionnelle, auto-centrée, veut que la bibliothèque soit auto-légitimée. Cette auto-légitimation s'appuie sur une forte tradition mondiale et une forte identité professionnelle. Le généraliste, comme l'élu, lui, apparaissent alors comme ayant un champ d'action de légitimation limité, le territoire administré plus que le territoire cultivé. C'est aussi sans doute quelque chose d'intéressant sur lequel il nous faudrait travailler. Mais le bibliothécaire peut être vu de son côté comme ayant un champ d'action limité, c'est-à-dire la seule lecture publique. La définition d'un projet territorial explicite, défini par l'élu à la culture, le maire, en appui avec la direction du développement culturel ou de l'action culturelle, et l'octroi de compétences confiées à chacun d'eux, à chacun de ceux qui les mettent en œuvre, pardon, semble le préalable à un fonctionnement harmonieux d'une gouvernance locale devenue parfois complexe. Le DAC n'est pas l'employeur juridique du bibliothécaire, qui reste in fine l'élu, enfin le maire en l'occurrence, mais il est quand même dans les communes et les intercommunalités, son supérieur hiérarchique, bien qu'il puisse y avoir là aussi des exceptions. Je parlais tout à l'heure du rattachement au directeur général adjoint, ou quelquefois directement au DGS. Le DAC est souvent chargé par l'élu d'un rôle de chef d'orchestre de la mise en œuvre de la politique culturelle. Mais son rôle n'est pas pour autant toujours le même. La fonction du DAC peut prendre une simple dimension de contrôle ou de coordination administrative sur la gestion du ou des équipements culturels. Mais elle s'envisage aussi dans une logique de développement culturel comme une mise en synergie de différents services et équipements culturels, dont la médiathèque ou la bibliothèque, au profit d'une action culturelle globale à définir, clarifier et inventer ensemble. Le DAC peut jouer là un rôle de facilitateur de projets, que ces projets émanent du secteur associatif ou du secteur culturel municipal, dans sa globalité. Sans intervenir sur l'aspect spécifique, donc scientifique, ou les caractéristiques ou les qualités scientifiques de ses collègues, il peut également avoir un rôle d'accompagnement sur des questions administratives et d'organisation, de ressources humaines, évidemment, ou de management. Voire de portage de projets. L'intégration d'un réseau de lecture publique dans le projet d'une ville, abordé dans toutes ses dimensions, éducatives, patrimoniales, culturelles, en termes d'aménagement du territoire également, en termes de développement durable, est évidemment une question centrale. À cet égard, il est indispensable de pouvoir formaliser pour les bibliothèques un projet autour de missions précises et hiérarchisées. L'enjeu, c'est sans doute d'arriver à trouver un équilibre entre, d'une part, la mission première, qui consiste à proposer au grand public une offre documentaire le plus large possible, d'autre part, le travail de médiation et d'action en direction des publics éloignés du livre et de la lecture, médiation comprenant la programmation culturelle dont vous parliez tout à l'heure, et mission auxquelles s'ajoute, dans un certain nombre de villes, la valorisation des fonds patrimoniaux. C'est dans ce passage d'une logique d'établissement, travail sectoriel, à une logique de territoire que l'intercompréhension des professionnels est nécessaire. Mais cette capacité à concevoir et mettre en œuvre une politique culturelle locale de façon partenariale n'est pas quelque chose de tout cuit, de donné d'emblée. L'essentiel, notamment lorsque l'organigramme de la collectivité définit une relation hiérarchique, c'est que le périmètre de chacun soit défini et respecté de part et d'autre, dans une visée commune, l'accès du plus grand nombre au savoir. Les élus, en cherchant parfois à établir des relations directes avec les responsables des équipements culturels, ne facilitent pas toujours cette reconnaissance mutuelle du rôle respectif des DAC et de leurs collaborateurs scientifiques, pédagogues ou artistiques. Dans certaines villes, il peut exister un élu délégué aux bibliothèques ou à la lecture publique qui n'est pas le même que l'adjoint à la culture, ce qui peut poser quelquefois un certain nombre de problèmes. Je parlais avec Sylvie Robert, ex-adjointe à la culture de la ville de Rennes, de ses rapports avec ses trois conseillers municipaux délégués, dont l'un était délégué à cette époque-là, c'est-à-dire en 2002, je crois, aux bibliothèques. Par ailleurs, donc sans politique culturelle globale clairement définie, le DAC et le bibliothécaire peuvent se trouver en porte-à-faux, voire en opposition. Par ailleurs, le corps des bibliothécaires reste encore très centré, très corporatiste. Certains responsables de bibliothèques municipales sont des conservateurs d'État, formés autrefois sans réelle connaissance des enjeux des collectivités territoriales. C'est de moins en moins le cas, bien évidemment. Mais il n'était pas rare, il y a quelques années, d'entendre des bibliothécaires déclarer leur indépendance et leur autonomie, tout en pensant que les collectivités locales n'étaient que le simple financeur silencieux et obligé. Les temps changent, la territorialisation des politiques culturelles, accentuée par le développement des intercos, notamment, induit les efforts qui étaient nécessaires en termes de transversalité des pratiques et d'évaluation des projets. Les complémentarités sont donc à l'œuvre.
C'est parfait, vous êtes absolument dans les temps. Avant de puisque vous avez achevé votre propos sur la question des complémentarités, je passerai donc à l'instant la parole à Patrick Bazin, qui va plus particulièrement nous parler de ces questions de complémentarité. Mais je me permets une toute première question de transition. Vous disiez tout à l'heure, et j'ai noté ce point qui effectivement devrait être un de nos droits fondamentaux de bibliothécaire, que tout cadre devrait bénéficier d'orientation politique. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qu'il est, ou en quatre ou cinq, ce qu'il est advenu de ce document dont vous nous avez lu l'introduction tout à l'heure, et quelles sont peut-être les quelques actions phares qui ont d'ores et déjà été mises en place?
Bien sûr. On est dans la phase de bilan de cette, et d'évaluation de ces orientations et des missions qui en ont découlé. On est également actuellement dans un tourbillon de diagnostic organisationnel au niveau de l'ensemble de l'administration municipale, d'où le fait qu'on ait reporté à septembre la validation des orientations de politique culturelle 2009-2014, donc sur le mandat. Ce qu'on a mis en place, notamment, on peut peut-être, je parlais du cinéma tout à l'heure, on a, à partir des objectifs 2005-2008, évité, avec donc le souci de décloisonner les missions générales des établissements, on a travaillé sur des notions qu'on a déclinées par domaine d'intervention, en prenant appui sur la notion de lecture publique plutôt que d'équipement, plutôt que de parler de médiathèque, on a parlé de lecture publique, plutôt que de parler de cinéma et d'école d'art, on a parlé d'images et d'art plastique, et de spectacle vivant et d'enseignement artistique. Alors, c'est peut-être sémantique, mais en tout cas, je pense que le décloisonnement des établissements passe par le fait de, sans doute, d'un vocabulaire commun, entre autres, par ces notions qui doivent être partagées. J'ai un nouveau directeur général des services qui parle beaucoup de culture partagée et de projet partagé. Je pense que ça commence peut-être aussi quelquefois par nos vocabulaires, parce que nous avons tous des vocabulaires très spécifiques, bien évidemment, et c'est normal, vu nos spécialités. Je pense qu'il est utile, très utile et très engageant de partager tout cela. Donc, dans le domaine de la lecture publique, par exemple, nous avions comme objet, je relis simplement le petit paragraphe, de développer le projet de lecture publique en mettant en place avec l'État et le département, dans un premier temps, une étude concernant l'état des lieux, ainsi qu'une analyse des besoins, et dans ces cas, de réfléchir à l'opportunité à terme de la création d'une médiathèque. Donc l'étude a été réalisée en complémentarité avec le département de Seine-Saint-Denis, confié à Madeleine Deloul, que vous connaissez bien, je crois, dans votre association. Elle a été faite en 2006, fin 2006. Elle a été partagée. Elle est actuellement en revisitation, en quelque sorte, pour être confiée sans doute en 2010, et aura conféré en tout cas un point d'ancrage et de démarrage donc de l'état des lieux et de l'analyse des besoins qui pourront donc être confiés à une structure extérieure sans doute avec laquelle nous travaillerons au projet de lecture publique dans son contenu et son contenant, bien évidemment. La question de la notion de médiathèque se pose pour nous en tant que tel à Pantin. Et nous pourrons travailler à partir de ce document très fouillé, de cette étude faite par Madeleine Deloul en 2006. Dans d'autres domaines, nous avons, dans le domaine du spectacle vivant par exemple, mis en place une direction du spectacle vivant avec une saison et une programmation culturelle, enfin artistique, qui n'existait pas sous cet angle-là à Pantin et aussi installé enfin, des choses qui sont de l'ordre du béaba quelquefois et notamment qui font sourire un certain nombre de mes collègues spécialistes de spectacle vivant quand je dis que nous avons installé par exemple à Pantin en 2006 une billetterie informatique. Voilà. C'est quand même des bases. Nous avons également demandé à la DRAC la licence d'entrepreneur de spectacle. Voilà, on est sur des choses quand même qui sont très très basiques sur ces questions-là. Je parlais tout à l'heure du cinéma également, de la municipalisation du cinéma 104 à Pantin. Trois salles ont été restaurées, restructurées, et l'administration et la gestion du cinéma ont été municipalisées, ce qui a été quelque chose d'assez important pour les personnels évidemment, mais aussi pour le public, puisque nous sommes passés de 16 séances hebdomadaires à 19 séances hebdomadaires. Nous avons créé 2 emplois. Voilà. Donc je ne vais pas lister tout ce qui a été fait. Évidemment, tout n'a pas été fait. Nous avons élaboré aussi des accords cadres et de coopération avec les institutions partenaires, qu'elles soient politiques, évidemment le conseil général de Seine-Saint-Denis, mais aussi le conseil régional, mais également des établissements publics comme le CND à Pantin, le Centre national de la danse, les établissements publics de la Villette et d'autres structures. Je passe également sur les demandes d'inspection que nous avons fait à l'État, à la MDTS, pour ce qui concerne le conservatoire à rayonnement départemental, le conservatoire de danse et l'école de théâtre. Bon, je ne vais pas aller plus loin que cela, mais globalement, ce document a été un support, encore une fois, très très conséquent pour le DAC, mais aussi pour l'ensemble des établissements culturels. Et l'évaluation de nos actions, de nos missions, se fait évidemment en regard de ce document.
Je vous propose que nous ayons un temps d'échange global à la fin des 3 interventions et je passe de suite la parole à Patrick Bazin.
Merci de la matinée d'être complètement hors sujet parce que je ne comptais pas parler spécialement de programmation culturelle au sens animation culturelle, au sens manifestation culturelle. Je pense effectivement que la question est plus large et d'ailleurs vous l'avez, monsieur Lechat, abordé, esquissé, je dirais. Je reviendrai peut-être sur le terme esquisser parce que je pense qu'on ne peut pas faire autre chose aujourd'hui que d'esquisser, que de tâtonner. Vous avez abordé la question du champ culturel de façon globale et transversale. Je pense que c'est précisément cette globalisation de la culture, cette transversalité de la culture qui aujourd'hui fait problème, fait problème au sens positif, éventuellement négatif, mais aussi positif, et transversalité, globalisation de la culture auxquelles les bibliothèques sont confrontées, je dirais, de l'extérieur. la période où, qui aura duré des dizaines d'années, voire des siècles, où les bibliothèques s'appuyaient sur un développement endogène et terminé, les bibliothèques sont immergées dans un tissu culturel, socio-culturel, et c'est à partir de l'approche de ce tissu que l'on peut penser les bibliothèques d'aujourd'hui et surtout les bibliothèques de demain. Alors, spontanément, quand Béatrice Pedot, dans un premier temps, m'a demandé de parler de concurrence, complémentarité, parce que j'imagine qu'elle sait, et Dominique Haro, que je remercie de m'avoir invité, le sait, que il y a quelques années, j'avais suggéré qu'un numéro du BBF soit centré sur la question de la concurrence. C'était l'époque où de nombreux bibliothécaires, et Gérard Grimbert de la BPI était très attaché, intéressé par cette idée, était préoccupé en fait par la concurrence qu'il subissait sur le terrain, dans les villes, au sein de grands établissements, lorsqu'ils étaient immergés dans des grands établissements, je pense au Centre Pompidou. Donc nous étions nombreux à penser que la question de la concurrence était fondamentale. Et lorsqu'on m'a demandé d'intervenir sur cette question, spontanément, j'ai pensé à une approche, dans un premier temps, historique. Moi, je suis à Lyon depuis pas mal de temps. J'ai vécu l'évolution de la bibliothèque de Lyon et du champ culturel à Lyon depuis pas mal d'années. Et lorsque je réfléchis à la politique culturelle, j'ai immédiatement une approche historique. Et inévitablement, alors peut-être est-ce propre à mon expérience typiquement lyonnaise, mais spontanément, je raisonne, je dirais, en trois parties, c'est-à-dire en trois phases. Hein. Si je regarde les 40, 50 dernières années, mais j'imagine qu'on pourrait remonter en fait à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, aux années 45-50. Hein. Je dirais de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, il me semble qu'il y a, pour ce qui est de la culture et des bibliothèques, je dirais, il y a eu trois temps. Hein. Nous sommes actuellement dans le troisième. Et du coup, le titre de mon intervention, si je devais en donner un, pourrait être du genre de la complémentarité à la concurrence. Et de la concurrence, alors peut-être au partage, effectivement, qui est un terme extrêmement important, flou, mais très, très important. Alors, quelquefois, quand je suis prétentieux, j'utilise un autre terme. Alors, je vais le lâcher, hein, il est un peu ridicule, il est très prétentieux, mais je n'arrive pas à penser en dehors de ce concept, enfin, de cette notion, c'est le terme de fractalisation. C'est-à-dire que j'ai une vision, personnellement, en tant que bibliothécaire à Lyon, une vision du champ culturel comme d'un espace fractalisé, hein, c'est-à-dire d'un espace, et j'y reviendrai, où chaque acteur fait la même chose que tous les autres. Et où, du coup, chaque acteur doit se positionner par rapport aux autres, mais non plus tellement en termes de concurrence frontale, mais en termes d'articulation de ce qu'il fait sur les autres acteurs. Et donc, il s'agit à la fois d'une complémentarité, d'un partage, d'une relation complexe, hein, le terme de complexité est très à la mode, hein, mais je crois effectivement qu'il correspond à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est cela que nous devons penser en tant que bibliothécaire, et c'est cela que les directeurs, effectivement, culturels dans les villes, que les élus doivent penser. Et je dois dire que j'ai l'impression qu'ils ont du mal. Nous avons tous beaucoup de mal à penser cela. Je ne crois pas tellement qu'aujourd'hui il puisse y avoir des politiques culturelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien sûr, agir en tant qu'élu, en tant que DAC, en tant que directeur de bibliothèque, qu'il ne faut pas œuvrer une politique culturelle, mais je pense que c'est vraiment un sujet très, très complexe. Et au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas réellement de politique culturelle. Il y a eu des politiques culturelles correspondant aux phases précédentes, je vais y revenir. Aujourd'hui, ça me paraît difficile. Il faut inventer, en fait, la politique culturelle. Certains diront qu'il faut inventer ou réinventer la politique, ce qui est le vrai sujet, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. Comment arriver à produire une politique en situation de complexité extrême et de mondialisation et de fractalisation, justement, hein. Et donc, comment penser la politique culturelle? Je dirais qu'il faut partir du général pour aller au particulier aujourd'hui. Donc, trois phases, très, très rapidement. Première phase, la complémentarité. Je dirais complémentarité, juxtaposition. C'est une phase qui correspond à l'époque où les différentes institutions culturelles avaient chacune une feuille de route très claire. Les bibliothèques avaient la feuille de route qui leur était donnée depuis des siècles, hein, par le dispositif du livre, de l'ordre du livre, avec le critère de la transmission de savoir constitué, avec le critère d'une éducation qui descendait, hein, à partir de ces savoirs constitués, des représentants éminents, professeurs, intermédiaires divers et variés de ce dispositif, disons, pyramidal du savoir, les bibliothèques avaient un rôle qui était clair, qui était un rôle de diffusion, très rapidement, après la guerre, de démocratisation par cercle concentrique. Et la bibliothèque, je dirais, assumait ce rôle de démocratisation aux côtés d'autres institutions culturelles en fonction de ses spécificités qui étaient liées au livre et à l'ordre du livre. Je ne vais pas développer ce sujet que vous connaissez aussi bien que moi. Je dirais que la bibliothèque, à l'intérieur d'elle-même, en quelque sorte, répartissait ses différentes actions de façon assez claire. La bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon, par exemple, a été d'ailleurs organisée par Henri-Jean Martin, le grand historien du livre. Donc, vous voyez, le lien qu'on peut faire avec cette notion d'ordre du livre était organisé en fonction des grands secteurs traditionnels, le secteur de la recherche. Hein, Part-Dieu, il y a au cinquième étage, des espaces dédiés à la recherche autour du patrimoine, la fonction éducative, la fonction qu'on appelait études à une certaine époque, et puis la fonction loisir, qui était basée au départ au rez-de-chaussée de la bibliothèque et qui s'adressait au grand public. Bon. Donc, on était dans un cadre assez clairement défini, et à Lyon, historiquement parlant, je dirais que la date centrale, hein, de cette phase, c'est 1972, l'ouverture de la bibliothèque de la Part-Dieu, hein, qui était une des premières bibliothèques, je dirais, dignes de ce nom en matière de lecture publique en France, et qui a été l'aboutissement de cette politique culturelle en général, et plus spécialement pour les bibliothèques, basée sur ce modèle, disons, de la démocratie, de la démocratisation descendante, avec une dominante concernant les bibliothèques, la dominante éducative. Le maire de l'époque, Pradel, qui se targuait de ne pas avoir fait d'études, ou peu d'études, avait dit en 72, je veux créer la plus grande bibliothèque d'Europe, parce que nos citoyens, les Lyonnais, ont besoin d'un outil éducatif. Hein, c'était son grand argument, et il l'a dit, et ce n'était pas un homme, ce n'était pas un cultureux, entre guillemets, hein, ce n'était pas du tout orienté sur des problématiques culturelles comme on les connaît aujourd'hui. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment la dimension éducative de la bibliothèque. Et c'est la bibliothèque qui était la première institution à Lyon à faire l'objet d'une montée en puissance avec des budgets tout à fait considérables. Bien plus considérable que les budgets affectés aux autres institutions culturelles. Bon. La deuxième phase, en quelque sorte, de l'évolution des bibliothèques et du champ culturel, c'est la phase de la concurrence, qui aura été, je pense, une phase relativement courte, qui correspond à une compétition généralisée, hein, en tout cas dans les grandes villes comme Lyon, entre des institutions, des acteurs culturels qui existaient déjà et qui, je dirais, en fonction de leur puissance, je dirais surtout de leur puissance médiatique, hein, pour parler rapidement, eh bien, essayaient de gagner des parts du marché, hein, des parts du marché culturel. Hein. Alors, il n'y avait pas officiellement de marché culturel. Hein. Vous opposiez le marché à la culture. Vous avez raison fondamentalement, hein, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, moi j'ai vraiment eu le sentiment que dans les années 80-90, j'étais dans un marché avec des institutions, je pense à l'Opéra, je pense au Musée d'art contemporain émergent, je pense à l'Institut Lumière à Lyon, enfin, avec des institutions fortement soutenues par certains élus et disposant de budgets et d'une force médiatique absolument considérable qui n'a pas été sans poser des problèmes à une bibliothèque comme la nôtre. D'ailleurs, autre date importante, à Lyon, en 1986, donc j'ai dit 72, 86, arrêt brutal de l'expansion financière, je dirais, de la bibliothèque municipale de Lyon, début de redéploiement des moyens financiers de la ville de Lyon en direction d'autres champs et d'autres institutions culturelles. Je me souviens que lorsque le maire qui a été élu en 89, Michel Noir, est arrivé aux affaires, il avait diffusé un programme d'action. C'était le programme pour la cité, dans lequel il y avait bien sûr un volet culturel et il n'y avait strictement rien sur le livre. Et ce n'était pas un oubli. Il y avait une volonté, dont il s'est expliqué d'ailleurs, et j'en ai souvent parlé avec lui, et on pouvait comprendre en même temps son option. Hein. Ce n'est pas, je ne critique pas, je ne me permettrai pas de critiquer une politique municipale ou un élu, ce n'est pas ça. Mais le constat était quand même assez étonnant, alors que nous avions une bibliothèque quand même importante, rien pour le livre et pour les bibliothèques. Pourquoi ? Parce que cette période de concurrence a correspondu, je pense, dans toutes les villes, et sans doute au-delà des villes, à une montée en puissance de ce qu'on appelle la culture aujourd'hui, hein, le champ culturel. Non pas qu'on ne parlait pas de culture avant, mais avant, je dirais, c'était plutôt la culture envisagée comme les beaux-arts, hein, le livre, les beaux-arts, enfin, avec les grands domaines culturels classiquement posés depuis des siècles. Dans les années 80-90, émerge la culture avec un grand C en tant que nouvelle réalité. Une nouvelle réalité où, par exemple, je ne vais pas épuiser la question de qu'est-ce que la culture, mais un champ dans lequel a émergé une très forte articulation, par exemple, entre l'intellect et le sensible, hein, entre l'intellectuel et le sensible. Une émergence de la diversité des registres dans le champ culturel, de la diversité des échelles. Hein, à chaque niveau de la société, toutes les activités devenaient peu ou prou culturelles. Une articulation, ça a été dit, également entre le sérieux, l'approche sérieuse, éducative, et l'approche ludique, à travers en particulier la montée en puissance de l'événementiel. Le développement, bien sûr, de la communication, je l'ai dit. Parallèlement à cela, dans le domaine des bibliothèques, un décentrement du livre. Le livre, dans les années 80-90, du fait de l'informatique et ensuite du numérique, de l'émergence des réseaux mondialisés, se mondialisant, le livre s'est trouvé décentré, hein, par rapport à sa fonction, la fonction centrale qu'il avait jusqu'à présent. Le livre servait à la fois de plaisir solitaire au plan littéraire, mais également d'outils de communication et d'accès à toutes les formes d'information, de savoir. Ça a été de moins en moins le cas dans les années 80-90. Et du coup, les bibliothèques se sont trouvées, dans une certaine mesure, délégitimées, marginalisées. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était l'époque où on a créé des bibliothèques. Alors, effectivement, la France a rattrapé son retard dans les années 80-90. Lyon avait été, je dirais, en avance, hein, sur ce phénomène de rattrapage. Mais dans les autres villes, c'est les années 80-90 qui ont été les années de rattrapage. Bon, c'est vrai, mais il s'agissait plus de rattraper un retard sur les pays anglo-saxons, de combler un vide. Hein, jusque dans les années 60-70, la France était un désert en matière de bibliothèques. Il s'agit de bibliothèques publiques ou universitaires. Et donc, il y avait un retard à combler. Mais ce comblement du retard n'a pas empêché ce phénomène, à mon avis, hein, de marginalisation et d'enfermement des bibliothèques sur une logique endogène. À Lyon, alors que nous n'avions plus, je dirais, la faveur des élus, hein, comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous nous sommes efforcés de développer, et nous l'avons fait d'ailleurs, je peux le dire, c'est très prétentieux, mais nous avons quand même développé des dynamiques très fortes, mais nous l'avons fait très largement de façon totalement endogène. Alors, nous pouvions le faire, pourquoi ? Parce que les DAC n'existaient pas encore réellement. J'y reviendrai. La transversalité, la centralisation croissante actuellement des dispositifs culturels dans les villes, hein, la montée en puissance de l'administration centrale des villes, et ça n'est pas que négatif du tout, hein, mais bon, il y a une centralisation croissante, n'existait pas. Et nous avons pu, à l'époque, avec les moyens du bord, eh bien, développer les activités que nous souhaitions développer. Mais l'effet pervers a été que nous nous sommes, sans doute, y compris à Lyon, un peu enfermés et nous nous sommes, dans une certaine mesure, séparés, je dirais, du corps de vivant ou pas vivant, je ne sais pas, de la ville. Hein. La période actuelle, qui correspond, à mon avis, à une nouvelle phase, et qui, d'ailleurs, pour ce qui est de la ville de Lyon et de la bibliothèque, correspond à un nouvel investissement de la ville aux côtés de la bibliothèque. Hein, depuis quelques années, pour les raisons que vous avez déjà esquissées, hein, la volonté d'avoir une politique transversale du livre, de la lecture, enfin, dans tous les domaines culturels, la bibliothèque redevient un enjeu tout à fait majeur. Mais cette étape, l'étape actuelle dans laquelle nous entrons, est une étape, je l'ai dit, de partage, de fractalisation, où, et c'est flagrant à Lyon, où chaque institution, chaque acteur du système fait peu ou prou la même chose que les autres. Alors, à des échelles différentes, avec des points de vue différents. Par rapport à cette évolution, cette fractalisation, comment la bibliothèque se positionne en quelque sorte, hein, quelle est la place de la bibliothèque dans ce phénomène de fractalisation? Il y a trois déplacements qui font évoluer actuellement les bibliothèques et qui les obligent finalement à rejoindre ce phénomène de transversalité culturelle. C'est bon, ce que j'appelle souvent la bibliothécarisation du monde, hein, à savoir, de façon concrète à l'échelle d'une ville, le fait que le domaine documentaire, aujourd'hui, n'est plus du tout l'apanage de la bibliothèque. Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs institutions culturelles de Lyon qui se posent de la même manière que nous, et quelquefois avec plus d'ambition que nous, que la Bibliothèque de Lyon, des questions proprement documentaires. Je vais prendre l'exemple du Théâtre des Célestins, hein, qui est le principal théâtre de Lyon. Le Théâtre des Célestins développe actuellement une bibliothèque autour du théâtre. Il vient de mettre en ligne un site sur ses propres archives, sur la mémoire du Théâtre des Célestins, mais au-delà du théâtre à Lyon et au-delà, je dirais, du théâtre en général. Il a obtenu l'an dernier une subvention de la MRT pour mettre en place justement ce site et pour numériser des documents patrimoniaux autour du théâtre. Bref, il a aujourd'hui, ce théâtre, et je pourrais multiplier les exemples, une problématique de documentation, d'accès à la documentation, en particulier à travers le numérique, qui rejoint la nôtre et qui quelquefois va beaucoup plus loin, parce que comme le Théâtre des Célestins, en l'occurrence, a, je dirais, une légitimité, hein, dans le domaine du théâtre, cela va de soi, qui est une activité porteuse, médiatique, extrêmement vivante sur le plan culturel, du coup, l'activité proprement documentaire du Théâtre des Célestins est souvent plus convaincante, va plus loin que notre activité même sur ce plan-là. Donc, vous voyez, la bibliothèque se trouve obligée de se remettre en question par rapport à l'un de ses fondamentaux, le rapport, en quelque sorte, à la documentation. Deuxième déplacement, la problématique des publics. Aujourd'hui, on ne peut plus, évidemment, concevoir notre action indépendamment d'une action de médiation. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, développer le concept de médiation. Vous en avez parlé, d'ailleurs, monsieur Le Chat. C'est significatif, hein, que ce soit un des termes majeurs que vous ayez utilisé ce matin. Eh bien, le fait même que les bibliothèques éprouvent le besoin d'aller du côté de la médiation fait qu'elles rejoignent, de fait, et là, je dirais que c'est le phénomène inverse de la bibliothécarisation, elles rejoignent les techniques ou les usages des autres institutions culturelles qui, souvent, ont beaucoup plus de savoir-faire, de compétences dans le domaine de la, médiation. Et du coup, les bibliothèques ont tendance à intégrer des métiers que l'on trouvait jusqu'à présent plutôt dans les musées, dans les théâtres, dans les autres institutions culturelles. Le troisième, je viens d'en parler, le troisième point de décentrement, vous parliez de corporatisme en quelque sorte des bibliothèques, c'est l'effet sur les personnels des bibliothèques de cette évolution du champ culturel et de la nécessité pour nous de nous immerger dans ce champ. C'est la diversification des personnels. Je n'ai pas de chiffres précis sous la main, mais à la bibliothèque de Lyon, certes, les bibliothécaires restent majoritaires, mais nous avons une proportion de plus en plus importante qui ne cesse de croître d'autres métiers. Des médiateurs, des animateurs, des spécialistes de communication, des techniciens de l'informatique, du numérique. Bon. Et cette diversification des métiers n'est pas sans transformer finalement l'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que les élus et que les décideurs ont évidemment de la bibliothèque. De transformer cette image dans le sens d'une ouverture accrue, ce qui est très positif, mais ce qui du coup, évidemment, nous pousse en quelque sorte dans nos retranchements. Du côté de la société, si je puis dire, là je viens de parler des décentrements, des décalages auxquels la bibliothèque est soumise, en quelque sorte, du côté de la société, de la ville, ou du pays, ou de la société qui nous entoure, il me semble qu'il y a deux problématiques qui émergent et qu'on a du mal à penser, mais qui fournissent le cadre de ce que pourrait être une politique culturelle. Et vous l'avez dit, en fait, c'est d'abord la problématique de l'intégration. Nous sommes tous, les élus, les décideurs, les bibliothécaires, nous sommes tous confrontés à un corps social qui relève d'un processus global et sans fin d'intégration. Il ne s'agit plus d'intégrer par cercle concentrique. Je parlais de la démocratisation des bibliothèques. On étend l'action des bibliothèques progressivement. Bon, dans le domaine du cinéma, à Lyon, il y a eu les CNP, les cinémas nationaux populaires dans les années 60. Bon, on essayait d'étendre, de démocratiser. Aujourd'hui, le problème est totalement différent. On est face à une société, je dirais pas atomisée, mais où l'individu est extrêmement important, où chaque individu a plusieurs rôles. Il sera expert dans un domaine et pas du tout dans l'autre. Il appartient à des communautés diverses et variées. Et du coup, la problématique de l'intégration, pas uniquement au sens social, et soit dit en passant, je pense que ce serait une erreur pour les bibliothèques de confiner leur activité uniquement dans la fonction sociale, au sens « je vais dans les quartiers sensibles ». Il faut bien sûr mener une action dans les quartiers sensibles en direction des prisons. Et je dirais même qu'au fond, comme c'est la forme d'intégration sans doute la plus difficile à faire, c'est celle-là qui peut nous renseigner sur la manière de faire dans d'autres champs de l'intégration. Mais l'intégration, c'est un problème beaucoup plus large. Il faut aussi intégrer les couches moyennes, il faut intégrer les familles, il faut intégrer les adolescents, il faut intégrer sans doute les entreprises, etc., etc. Donc cette problématique de l'intégration est très importante. Deuxième problématique, ce que j'appellerais le continuum du savoir. Alors c'est un terme là aussi un peu prétentieux, mais j'ai du mal à sortir de cette vision. La question du savoir, de la connaissance, avec tous les acquis de l'évolution de la culture, c'est-à-dire d'un savoir qui peut être ludique, d'un savoir qui peut passer par l'événementiel. Un événementiel bien fait, c'est un bon événementiel, c'est un événementiel qui a un effet cognitif, c'est-à-dire une valeur cognitive. Trop longtemps, les bibliothécaires ont opposé leur action de terrain, sérieuse, au service de, à l'événementiel marchand, à l'événementiel superficiel. Non, l'événementiel a une charge cognitive. C'est évident. Et donc, ce continuum du savoir passe par des outils, par des activités extrêmement diverses. Elles touchent absolument tous les niveaux de la société, tous les individus d'une société. Et je pense qu'un des grands enjeux pour les villes, pour les agglomérations, je ne dirais peut-être pas de l'état du pays. Je pense que c'est une question qu'on ne peut gérer qu'à un niveau d'assez grande proximité. Un des grands enjeux, c'est comment faire d'une ville, hein, par exemple, une espèce de système non pas de transmission, mais de dynamisation, hein, d'un savoir partagé, justement. Hein. Et je terminerai simplement par là, de façon, disons, un peu plus concrète, concernant Lyon et plutôt l'agglomération de Lyon, hein, la communauté urbaine de Lyon, qui s'appelle le Grand Lyon, et qui, je dirais, se préoccupe beaucoup des aspects stratégiques. Hein. Les grandes questions stratégiques sont traitées plutôt au niveau du Grand Lyon, plutôt qu'au niveau de la ville. Eh bien, sous l'impulsion de la bibliothèque municipale, c'est quand même intéressant, le président du Grand Lyon, Gérard Collomb, qui est en même temps le maire de la ville de Lyon, a inscrit comme l'un des axes stratégiques de la communauté urbaine de Lyon le concept de métropole du savoir, avec cette idée que, oui, on est confronté à un continuum. Le savoir, ce ne sont pas simplement les universités, ce n'est pas simplement, de l'autre côté, les institutions culturelles ou l'école. Non, c'est un ensemble, c'est tout un tissu, un continuum qu'il faut penser. Les bibliothèques, étant perçues pour des raisons que vous savez aussi bien que moi, vous êtes bibliothécaire, comme des intermédiaires possibles, hein, des opérateurs de partage, possible pour permettre à ce continuum du savoir d'exister. Et je dirais, entre savoir et culture, eh bien, il y a un lien évident, on ne peut plus opposer ces deux aspects. Dominique Arrault parlait de loi sur la lecture publique, sur les bibliothèques. On parle par ailleurs d'une évolution éventuelle du ministère de la Culture. Je fais partie de ces personnes qui pensent que, pour toutes les raisons que je viens de développer très rapidement, qu'il faut revoir complètement les politiques culturelles en relation très étroite avec les politiques de l'éducation, et que s'il y avait une loi sur les bibliothèques, il faudrait, à mon avis, qu'elles intègrent très très fortement ces deux aspects. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'au niveau national, il faudrait qu'il y ait un ministère commun de la culture et l'éducation, même si je suis presque prêt à le penser, mais au niveau municipal, il faut absolument lier les deux. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop...
Qu'on puisse laisser du temps à notre collègue des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, les points que vous évoquez à l'instant sont sans doute des points que nous pourrons réévoquer cet après-midi. Je te passe la parole, Mathieu.
Merci. Alors, le propos qui est le mien, donc, c'est bien d'aborder la question de la programmation culturelle de la BDP du Bouches-du-Rhône au regard de la, je dirais, de la politique culturelle de mon département. Et ce sera sans doute très complémentaire, donc, de ce que mes collègues, donc M. Le Chat et M. Bazin, ont pu apporter ce matin. Donc, pour ma part, ce que j'ai envie de vous montrer ce matin, c'est tout simplement comment la bibliothèque départementale a, je dirais, depuis peu évolué dans ses nouvelles missions, pour montrer comment le croisement d'un réseau de bibliothèques municipales, hein, avec lequel nous avons l'habitude de travailler, comment ce réseau a pu s'enrichir d'une nouvelle dimension avec un autre réseau qui est celui de tout le tissu des associations et des institutions de l'ère marseillaise, et comment la programmation de l'un et de l'autre donc permet un rayonnement culturel qui, en tout cas sur le secteur livre, permet d'irriguer notre territoire. Alors, quelques chiffres donc pour que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur de ce que nous pouvons faire. Alors, le réseau des bibliothèques municipales que nous gérons, donc, c'est une petite centaine donc, de bibliothèques municipales. En même temps, vous savez que nous sommes dans un département plutôt urbain, voire rurbain, et nous ne comptons que 119 communes donc, dans ce département. Et notre réseau donc, compte à peu près 490 000 habitants hors Marseille, donc sur tout un département qui comprend 1 905 000 habitants. Donc, pour essayer de retracer un petit peu l'évolution de la BDP en quelques tranches historiques aussi bien modestes qui partiront de moins loin. Je dirais que jusque de la création de cette BDP des Bouches-du-Rhône jusqu'en 99, nous avions vocation essentiellement à être sur nos missions traditionnelles de desserte et donc avec un public acquis, captif, je dirais, de professionnels de la lecture au sein des communes. En 99, donc à l'arrivée, je dirais, de Françoise Dansette, donc à la direction de cette BDP, et je dirais par carence reconnue de tous, hein, à ce moment-là, de la lecture publique sur l'aire marseillaise, il est convenu entre, je dirais, les acteurs du territoire que la BDP peut contribuer aussi en termes d'apport. D'apport donc dans le domaine de la lecture sur le territoire marseillais. Donc c'est en partant de là que le développement, je dirais, d'un nouveau public se fait sur l'aire marseillaise, donc pour la BDP, avec le développement d'un certain nombre de partenariats avec les professionnels du livre, mais aussi les associations et tout autre, je dirais, partenaire plus largement donc de la chaîne du livre. Alors, peu à peu, je dirais, ces orientations se sont confirmées, les résultats ont été là, et le besoin, en tout cas, étant encore exprimé, les choses ont évolué jusqu'à l'arrivée donc, du nouvel équipement que vous connaissez maintenant, Archives et Bibliothèques départementales Gaston Defferre, donc équipement qui a, je dirais... était réellement pensé par nos élus en termes d'apport. Et tout à l'heure, Corinne, tu évoquais l'impact, je dirais, de nos élus hein, dans la manière de marquer peut-être ces politiques culturelles. Et à ce moment-là, dès la construction et puis à l'inauguration dès 2006, nos élus nous indiquent de manière très forte qu'ils souhaitent qu'on s'intéresse à toute la chaîne du livre et à tous les acteurs donc, de tout le département, je dirais, avec quasiment tous les seuils qui sautent donc, pour les BDP, hein, le seuil des 10 000. On a plus de seuils dans les Bouches-du-Rhône depuis, je dirais, un petit moment. Et nous nous intéressons donc à tout type de public, d'autant qu'à ce moment-là, la politique culturelle du département est réaffirmée à travers donc, un document donc, qui est partagé chez nous avec tous les établissements culturels, qui rappelle que nous souhaitons tous faciliter l'accès donc, du plus grand nombre à la culture, assumer l'aménagement donc, culturel du territoire, et assurer pardon, et soutenir donc, la création artistique. Partant de là... ce sont pour beaucoup, je dirais, des dimensions nouvelles pour nos collègues des BDP. Hein. Vous imaginez que ça n'a pas été, je dirais, sans provoquer des changements profonds dans la vision du métier. Vous parliez de médiation tout à l'heure, Monsieur Bazin. Donc, il a fallu accompagner tout ça. Et je dirais que dès 2007, donc lorsque j'ai pris la direction de cette BDP, j'ai souhaité qu'avec les équipes, nous puissions un petit peu revisiter l'ensemble de nos missions, de nos actions, de nos objectifs, je dirais aussi de nos actions de terrain, et tout en les revisitant, essayer d'intégrer la commande politique de nos élus à travers les nouvelles missions. Alors, ces nouvelles missions, je les rappelle, hein, je dirais qu'elle ne s'oppose pas forcément aux missions traditionnelles des BDP, mais qu'elle les complète aussi. Ça a été d'ouvrir une salle d'actualité donc, au sein de la bibliothèque avec du public direct, une salle donc, de référence, hein, une salle de presse qui comprend donc plus d'une centaine de références, dont l'objectif était d'informer, former, se former donc, et de débattre. Ensuite, une nouvelle mission et qui est, je dirais, relativement colossale en termes d'énergie et en termes de rayonnement aussi, peut-être, pour la BDP, c'est que nous avons rattaché à la BDP depuis 2003. Mais cette mission, je dirais, a été largement réactivée après la construction du bâtiment. C'est la mission livre, puisque en tant que directeur de BDP, je suis aussi chargé de mission pour le livre et l'édition. Et donc, nous accompagnons à la BDP, financièrement et techniquement, tous les projets de la centaine d'associations donc, du secteur livre et de l'édition de tout le département, tout en proposant aussi des dispositifs adaptés qui sont, par exemple, l'aide à la création et à l'édition, les résidences d'auteurs, d'illustrateurs ou de traducteurs. La dernière mission donc, nouvelle, je dirais, de cette BDP atypique et qu'il a fallu que nous apprenions en nous immergeant justement donc, dans ce tissu, je dirais, de culture au sens en dehors du monde des bibliothèques, hein, comme vous l'évoquiez, ça a été de renforcer la programmation culturelle de notre lieu, puisque vous savez que nous avons un bâtiment que nous partageons donc avec les archives de 28 000 m², avec un certain nombre d'espaces communs, un auditorium de 100 places, deux halls d'exposition, un très grand, un plus modeste, un jardin de la lecture que nous animons aussi, ainsi qu'un parvis. Voilà. Donc, par rapport à ces missions, donc, il nous a fallu, je dirais, développer un certain nombre d'actions et viser de nouveaux publics. Évidemment, nous continuons d'activer notre public de professionnels, que ce soit les bibliothécaires, donc, municipaux, les responsables d'associations, etc., dans le domaine du livre et de la lecture. Mais nous avons réactivé aussi nos publics prioritaires du Conseil général, que ce soit donc les enfants de la PMI, les collégiens, les jeunes en situation d'insertion, etc., les personnes âgées et handicapées. Donc, public qui était notre public spécifique. Et à ce public se rajoute donc ce public que nous ne connaissons, que nous ne connaissions pas, je dirais, en BDP, le public direct, le grand public, celui dont tout le monde parle, mais que jusque-là, personne ne voyait. Et je dirais que là aussi, ça a été un petit peu le choc pour les équipes, parce qu'il a fallu, je dirais, découvrir cette médiation directe, d'une certaine manière, avec les publics. Pour nous organiser, puisque évidemment, toutes ces nouvelles évolutions, ces missions, ces nouvelles pratiques de médiation, nous avons créé, je dirais, pas de manière dichotomique, mais peut-être de manière complémentaire toujours, pour être dans le continuum du savoir, comme vous disiez, Monsieur Bazin, que moi j'appelle plus modestement la valorisation au quotidien et la communication. Donc nous avons créé un département de l'action culturelle et des publics qui soit pas seulement, je dirais, un endroit où on programme à tour de bras des choses que le public demanderait, mais qui est aussi un endroit qui essaye au quotidien de penser, et c'est bien normal, la manière dont tout le travail fait sur les collections peut être valorisé, un peu, je dirais, dans tous les secteurs, en tout cas sur tout type de documents que nous pouvons valoriser. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail sur les deux types de programmation que nous pouvons faire. Toujours pareil, que nous n'affichons pas comme des programmations contradictoires et opposées, hein, mais qui, en tout cas, en termes de lisibilité sur le territoire, se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent. Donc, la programmation qui est liée au réseau, qui est assurée chez nous par un cadre B au quotidien, donc sous la responsabilité donc d'un cadre A chargé globalement de toute l'action culturelle. Alors cette programmation, ben, vous la connaissez, c'est globalement la programmation jusque-là de Lire en Fête, que pour notre part nous avons maintenu pour 2009, puisque nous n'avions pas la nouvelle version au moment où nous devions nous engager sur la préparation de la rentrée, donc de la proposition de la nuit de la lecture. Et donc, depuis des années, donc, nous organisons cette opération donc, qui comprend 44 représentations de spectacles au sein des bibliothèques du réseau. Cette année, la thématique, d'ailleurs, sera le Japon. Alors, au-delà de cette tournée départementale, depuis presque 3 ans, il avait été décidé d'élargir l'offre d'animation culturelle, d'action culturelle pour le réseau, au-delà de cette tournée très circonstanciée dans le temps, hein, très, très, très circonscrite en tout cas dans le temps, au mois d'octobre, et nous avons cherché à développer très régulièrement d'autres opérations. Alors ça fait des opérations autour de l'écriture poétique. Nous faisons ça en partenariat en général au mois de mars avec une association que vous connaissez peut-être qui est le Centre international de poésie Marseille, le CIPM, qui comprend d'ailleurs le plus grand fonds de poésie étrangère en France et à Marseille. Nous essayons de développer le mois du film documentaire au mois de novembre et un certain nombre d'opérations comme ça pour essayer d'être présent et d'animer notre réseau au quotidien. Par ailleurs, nous avons depuis 2 ans initié l'acquisition d'expositions de photographies originales d'artistes locaux, puisque ça a été aussi pensé comme une aide à l'artiste, que nous essayons de faire circuler dans le département, donc depuis peu, au-delà des expositions panneaux traditionnelles que nous connaissons tous. Alors, pour ce qui est de la programmation du bâtiment lui-même, hein, du bâtiment Gaston Defer, les choses sont les suivantes. Nous essayons de valoriser à peu près tous les supports que nous connaissons, le livre, la musique, l'image, et nous essayons de privilégier avec ces supports tout ce qui concerne la création contemporaine et nous initions bien sûr autour de ces événements un certain nombre d'activités, d'ateliers, etc., de médiations, pour être complètement dans ce nouveau rôle que nous prenons assez à cœur de médiateur, si je puis dire, culturel. Alors, la programmation chez nous est construite en 3 temps. C'est d'abord, et 3 temps qu'on retrouve d'ailleurs dans la plaquette de notre programmation, hein, de notre lieu, les événements, les expositions et les rencontres. Je ne suis pas sûr que je vais rentrer dans le détail, si ce n'est préciser que les événements peuvent avoir, je dirais, toute coloration, qu'elle soit nationale ou locale. Ça peut être aussi bien Lire en fête, lorsque nous programmons aussi des spectacles de Lire en fête au mois d'octobre, donc dans notre lieu. Ça peut être les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine. Ça peut être aussi sur un plan local, donc les rencontres d'Aveyrouès que vous connaissez sans doute. Et pour ce qui est des expositions, donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, simplement dire que nous avons 2 types de programmation donc, pour les expositions. La première, c'est le grand hall donc, d'exposition qui est dans le hall d'entrée des archives et bibliothèques départementales, qui est très grand. Là, on essaye de se partager cet espace avec les archives en alternance et nous essayons de programmer des expositions, je dirais, à caractère historique, scientifique, sociologique. Récemment, nous avions, par exemple, une grande exposition à caractère ethnologique donc, sur les hommes fleurs du Mentawai, donc, qui est une tribu du sud-est de l'Indonésie. Et actuellement, nous accueillons, dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, une exposition produite par l'Institut du monde arabe et qui avait d'ailleurs été exposé à Paris, qui avait tourné un peu partout dans le monde et qui nous arrive là depuis le mois d'avril de Damas. Pour les rencontres, nous essayons de les développer dans 4 domaines. Dans le domaine de l'histoire et des sciences humaines, évidemment, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature et de la poésie, et donc dans le domaine du cinéma et de la vidéo. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail.
Effectivement, Mathieu, de façon à ce qu'on puisse se laisser un temps d'échange, je voudrais d'ores et déjà te poser une question. Tu nous as bien montré tout à l'heure de quelle façon ton projet de service à la BDP des Bouches-du-Rhône a permis d'intégrer les objectifs de la politique départementale. Est-ce que tu peux, à la fin de ton propos, nous dire de quelle façon cette intégration a été évaluée ou de quelle façon il est prévu de l'évaluer si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, et comment il est prévu, du coup, d'en rendre compte aux élus pour que nous puissions parler là, à un moment d'évaluation des politiques culturelles?
Alors évidemment, comme c'est, tout ça c'est naissant chez nous, on n'en est peut-être pas à la phase de l'évaluation, comme tu peux t'en douter, mais c'est vrai que voilà, au moment du projet d'établissement, nous avons essayé de partir des données de nos élus pour essayer de voir comment développer tous les services et toute l'offre qu'on pouvait faire, qu'elle soit documentaire ou en action culturelle, par rapport aux trois nouvelles missions, hein, la salle d'actualité, la programmation culturelle, mais aussi l'animation de toutes les associations du secteur livre, hein, donc des auteurs, des éditeurs, des libraires et autres, que nous avons vocation à gérer et à animer. Voilà, donc on s'est demandé ce qu'on voulait faire par rapport à ces trois nouvelles missions en termes de dispositifs, d'actions, de public avisé, etc. Et nous sommes aujourd'hui plutôt dans la mise en œuvre, si tu veux, et pas encore dans la phase d'évaluation. Et pour essayer de prendre un exemple, j'intervenais mardi après-midi donc à la direction du livre et de la lecture sur donc notre espace de presse, donc sur notre salle d'actualité, et j'expliquais comment, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés sur le service depuis son ouverture, on avait réussi ou pas à toucher le public de proximité. Et en l'occurrence, nous avions largement réussi cela, puisque nous avons 70% des habitants du quartier donc, qui viennent fréquenter ce service, et que le public qui rentre dans ce service correspond à 25% des entrées totales dans le bâtiment des ABD Gaston Defer. Voilà. Donc évidemment, on a quelques éléments qui sont là assez parlants, mais je pense, je crois que je te le disais récemment, que ce ne sont pas forcément des critères de fréquentation et des chiffres comme ça qui seront pertinents à terme. Il faudrait aussi rentrer dans le qualitatif, puisque pour prendre un exemple à l'opposé, lorsque nous programmons des séances de cinéma de plein air donc dans le jardin de la lecture, donc qui est attenant aux ABD Gaston Defer, nous avons pu prévoir par exemple des projections de films en espérant avoir tel ou tel type de public que nous souhaitions développer, et on a eu un public complètement à l'inverse, plutôt je dirais qui a un accès facile à la culture, qui avait traversé tout Marseille pour venir voir le film dans le jardin. Donc finalement, ça nous pose aussi des questions. Est-ce que ce qu'on propose est bien, voilà. Alors c'est pas gênant en soi, on est toujours dans notre rôle de diffusion, etc. Mais voilà, entre ce qu'on essaye de concevoir et ce qu'on a en bout de course comme résultat, c'est pas toujours évident. Alors peut-être, si tu permets, je passe donc vite. Voilà. Voilà. Je voudrais juste dire que cette programmation, elle se fait quand même pas toute seule, et que comme nous sommes mutualisés avec nos collègues des archives, nous cherchons d'une certaine manière à coproduire aussi avec eux des événements. C'est pas toujours facile, parce que dans le cadre de la création de cet équipement et de cette mutualisation, chaque service a dû se mettre, je dirais, à niveau et trouver son rythme de croisière. Et avant de se concerter, je dirais, beaucoup sur la programmation, c'est vrai que chacun, de part et d'autre, nous avions à faire. Mais nous avons fait des choses à la marge qui ont bien marché, et nous poursuivrons dans ce sens. Et je voudrais dire aussi qu'en tant que chargé de mission livre, hein, donc avec la mission livre qui est la nouvelle mission, donc bien rattachée à la bibliothèque départementale, nous cherchons aussi à développer des approches esthétiques donc entre les différents arts et la littérature, et nous essayons peu à peu de travailler avec les autres missions sectorielles de la direction de la culture, pas tellement les autres établissements, parce que chez nous les établissements, les deux musées sont à Arles, et c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, pour travailler avec eux au quotidien. Pour conclure, je dirais que notre objectif de programmation souhaite tenir compte de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, Donc vous voyez qu'on a, je dirais, largement peut-être dépassé notre rôle de desserte des BM hein, historique, et que nous cherchons donc à développer des coopérations donc avec en interne donc bien sûr, mais des partenariats aussi en externe avec des associations et des institutions, et toujours dans un souci de croisement des publics avec nos partenaires, sans jamais oublier les publics léonais. Et ça, c'est une commande forte aussi de nos élus, donc sans jamais les oublier. Voilà.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous passe de suite la parole pour pouvoir poser vos questions aux intervenants. Oui, ben voilà. Non, mais vous pouvez réagir.
Je me permets de réagir à ce qui vient d'être dit, parce que